Rencontre littéraire, Václav Richter.
À la charnière des 19e à 20e siècles, un homme se révolte contre le sultan du Maroc et se déclare prétendant légitime au trône. Cet homme sera surnommé Bouhmara, l'homme à l'ânesse, car c'est sur une ânesse qu'il fera son entrée dans l'histoire. L'incroyable aventure de cet homme maudit, de ce rival redoutable de deux sultans qui savaient jouer un jeu diplomatique subtil avec la France et avec d'autres puissances occidentales, est le sujet du roman d'Omar Mounir, écrivain ancien journaliste de Radio Prague, qui vit et travaille en République tchèque. Le roman intitulé « Bouhmara, l'homme à l'ânesse » est sorti aux éditions Marsam. Voici la première partie d'un entretien avec l'auteur de ce roman qui fait revivre un chapitre peu connu de l'histoire du Maroc. Essayons d'abord de préciser le genre de ton livre. C'est un roman historique. Qu'est-ce que le genre du roman représente pour toi? Quel est dans le roman historique le rapport entre la réalité et la fiction?
C'est-à-dire que le roman historique se présente comme un complément de l'histoire. Parce qu'il arrive un moment où l'historien s'arrête, laissant derrière lui un récit où il y a des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, évidemment, c'est la littérature qui peut les remplir, pratiquement par un travail de restauration. Un travail de restauration comme quelqu'un qui restaure un tableau pour lui donner un sens. Je pense, en tout cas moi c'est ma déontologie personnelle, que l'écrivain ne doit s'aventurer dans le domaine de la fiction que dans la mesure où il respecte les faits historiques et se contente d'apporter un simple éclairage qui ne déforme en rien le fond du texte historique. Et s'il a l'intention vraiment de gambader dans le monde imaginaire, il ne faudrait pas que le livre soit présenté comme un roman historique et que le lecteur soit par conséquent trompé.
Pourquoi l'homme à l'ânesse? Pourquoi Bouhmara? Essayons de retracer l'itinéraire de cet homme qui s'est révolté contre le pouvoir officiel.
Alors, la vie de Bouhmara, les péripéties de cette vie, en réalité, personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé, ni ses motivations, etc. Ce que l'on sait, comme acquis certain, c'est que Bouhmara est né dans la région de Fès au Maroc vers la fin du 19e, ou même plutôt en tirant vers la moitié du 19e siècle. Il a fait des études universitaires à l'université Qadawiyyin de Fès et il va se trouver par un cheminement dont personne ne sait rien, dans la chancellerie du sultan Hassan Ier. Et étant dans cette chancellerie, il va suivre un stage de formation d'officier de l'armée et de cartographe qui a été assurée à l'époque par la France. Nous sommes à la charnière des deux siècles, le 19e et le 20e. Et à la mort du sultan, au niveau de la succession, il va y avoir un quiproquo. Ce n'est pas le véritable successeur qui va succéder au sultan, mais un autre fils qui s'appelle Moulay Abdelaziz. Et apparemment, Bouhmara n'a pas été content. Et il va agir. On ne sait pas s'il va agir par opportunisme, parce qu'il pense que dans la situation, le cafouillage qui se présentait, il pouvait se faire une place et devenir sultan lui-même, ou alors c'est pour défendre la mémoire du sultan qui a désigné un successeur et on lui a laissé un autre successeur. Toujours est-il qu'il va se lancer, en tant qu'universitaire et en tant qu'officier, dans une grande aventure qui va durer 8 ans, pendant laquelle il va combattre, je dirais avec une certaine loyauté, sinon une grande loyauté, il va combattre les deux sultans, successivement deux sultans, pour devenir sultan, il ne le deviendra pas.
Mais pourquoi l'homme à l'ânesse? Quelle est la signification de ce symbole?
Dans cette aventure, il a fallu qu'il ait une base populaire qui servirait de base de recrutement des combattants en même temps, en se présentant devant les gens, la toute première fois où il s'est présenté sur une ânesse. Alors, c'est déjà un message politique, parce qu'il se présente sur l'ânesse, voulant détrôner le sultan, et cette présentation est l'antithèse du sultan, l'antithèse du cheval. Et par conséquent, il se présente comme étant beaucoup, beaucoup plus près que le sultan, beaucoup plus près du pauvre, beaucoup plus près du paysan, ce qui lui a valu au demeurant la sympathie des classes campagnardes et autres.
Est-ce que les Marocains aujourd'hui connaissent son nom? Quelle est sa place officielle dans l'histoire du Maroc?
C'est une place assez exiguë, c'est une place assez étriquée. Bouhmara se présente dans l'histoire qui est enseignée dans les lycées et les collèges. Il se présente un peu comme un complexe, comme un mauvais souvenir, un mauvais rêve dont on ne veut pas se souvenir. Mais étant donné son importance, on ne peut pas ne pas le citer. Alors il est cité brièvement, comme quelqu'un qui a trahi.
Pendant la révolte de Bouhmara, deux sultans se sont succédés, tu viens d'en parler d'ailleurs, sur le trône du Maroc. Dans quelle mesure Bouhmara a influencé le processus qui a abouti au renversement du sultan Moulay Abdelaziz et à l'avènement de Moulay Abdelhafid?
C'est une question très importante. Bien sûr, Moulay Hafid, pour relever son frère, pour tout simplement prendre la place de son frère, il lui a fallu un argumentaire. Et dans la construction de cet argumentaire, il reprochait précisément à son frère de n'avoir pas pu neutraliser Bouhmara. Et donc, il a servi de prétexte à Moulay Hafid pour détrôner Abdelaziz, son frère. Ça, c'est le premier aspect de cette question. Le second aspect, c'est que l'avènement de Moulay Hafid a consolidé la position de Bouhmara, puisque Bouhmara combattait Moulay Abdelaziz, qui n'avait pas de légitimité puisqu'il n'était pas l'héritier du trône, et il se retrouve en seconde position avec quelqu'un qui est encore, qui a moins de légitimité que Moulay Abdelaziz, puisque tout simplement il a volé, il a raflé le trône à son frère. Et donc Bouhmara, dans ces conditions-là, il s'est tout simplement dégagé de tout complexe. Il dit, moi à ces deux gars-là, moi je n'ai rien à leur envier, j'ai autant de légitimité que chacun d'eux s'il s'agit d'avoir une certaine légitimité. En revanche, il y a des indices qui laissent penser que Bouhmara voudrait récupérer le trône pour le restituer au successeur légitime, celui désigné par le sultan Moulay Hassan. Il le ferait tout simplement par reconnaissance, parce que tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il a, toute sa formation, il la doit au sultan Hassan Ier. Alors on ne sait pas laquelle des versions est la vraie.
Le Maroc, de ce temps-là, se trouvait évidemment dans un certain contexte politique international. Quel a été dans tout cela le rôle des puissances occidentales, dont la France, mais aussi le rôle de Grande-Bretagne, de l'Espagne et de l'Allemagne?
Ils ont certainement joué un rôle, parce que là, c'est une question assez complexe. Bouhmara évoluait sur un terrain très marécageux, politiquement et militairement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui revendiquait le Maroc, qui se battait pour avoir le Maroc, et il avait affaire à deux puissances. D'abord à la puissance française, à la France, qui était en Algérie chez elle depuis 1832, et qui avait évidemment des vues sur le Maroc. De ce point de vue, Bouhmara, il peut jouer en faveur de la France, il peut jouer contre elle, et selon les situations, il se laissait manipuler par la France. Idem pour l'Espagne, qui elle aussi était au nord du Maroc et voulait le conserver. Et Bouhmara, dans cette situation-là, il essayait de ménager l'Espagne, d'en tirer le maximum parce qu'il a besoin d'argent et d'armement. Mais ce qui est génial de sa part, c'est que pendant 9 ans, il a évolué dans cette situation extrêmement complexe entre la France et l'Espagne, sans jamais combattre ni l'une ni l'autre.
C'était la première partie d'un entretien avec Omar Mounir sur son roman Bouhmara, l'homme à l'ânesse, retraçant un chapitre peu connu de l'histoire du Maroc. La seconde partie de l'entretien sera diffusée dans le cadre de cette rubrique samedi prochain. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Virnochova, réalisation technique, et à Peter Pokorny, prise de son.